je vais pas être trop long. Juste, alors peut-être deux points. Tu as commencé ton exposé en disant le développement durable est un projet global. On ne peut pas séparer finalement la nature d'un côté, le social de l'autre, enfin les entités que manie le développement durable. Donc c'est un projet global, cohérent, systémique. Et tu finis ton exposé en disant le développement durable apporte à l'acceptabilité une dimension, une caution morale.
Non, le néonaturalisme.
Alors oui, pardon, le néonaturalisme. Mais est-ce que le fait de considérer le développement durable comme un projet global dont les entités ne sont pas séparables, et donc comme quelque chose de très cohérent et de systémique, finalement ne constitue pas un travers lui-même, puisque finalement si c'est un projet aussi cohérent et aussi systémique, il n'est pas discutable par n'importe quel d'entre nous, puisque finalement on n'aura qu'un point de vue limité, partiel ou partial, et donc on se retrouve un petit peu dans la même posture vis-à-vis de développement durable que la posture que tu viens de critiquer sur le néonaturalisme. Ça c'est la première remarque. La deuxième, la vision en termes d'urgence donc que tu critiques signifie finalement le dépôt de bilan de la démocratie, puisque on n'a plus le temps de réfléchir, il s'agit d'agir, donc de confier notre destin à un despotisme éclairé, hein, finalement, où le politique serait informé par le scientifique. Alors il y a Luc Semal qui a fait sa thèse, donc qui est un politiste, donc de Sciences Po Lille, qui a fait sa thèse sur cette question-là en fait. Hein, et sa thèse, lui, c'est de dire que l'urgence, plutôt que d'effacer ou de mettre au rancard la discussion démocratique, le débat démocratique, est au contraire le moyen de mobiliser les populations. Donc j'aurais aimé avoir ton point de vue là-dessus, hein, finalement, qui rejoint un petit peu aussi l'idée de Bruno Villalba sur ce délai qui nous resterait jusqu'au moment fatal, entre guillemets, ou en tout cas, comment utiliser ce délai, quelle démocratie devons-nous mettre en place pour discuter dans un temps limité, et donc ça interroge effectivement la lenteur que tu évoquais tout à l'heure. Voilà, donc c'est juste ces deux questions. Peut-être qu'on va prendre des questions de la salle, comme ça on arrivera à tenir le temps. Allez-y. Alors, peut-être donner votre nom et quelques indications si besoin.
Je
voudrais
bien suivi d'accord avec ce que vous avez dit. J'ai juste une difficulté à saisir la liaison entre la troisième partie sur l'acceptabilité sociale et la première. J'ai entendu parler de la nécessité de l'acceptabilité sociale, on est d'accord, notamment via les sciences sociales, ça fait d'accord, mais le discours d'acceptabilité au service de quoi? Au service de ce dont vous parlez dans la première partie, c'est-à-dire la croissance verte ou la décroissance, ou d'un autre discours comme le développement durable au sens global du terme, pourquoi ce discours d'acceptabilité sociale par rapport à ce qu'on cherche tous, à savoir un développement vraiment durable qui soit ni justement la croissance verte ni la croissance.
D'autres questions? Oui.
Oui. Ouais, j'avais une remarque et une question. Donc merci beaucoup pour ton exposé. Très très intéressant, mais bon, j'étais provocant comme d'habitude. D'abord, la première chose, c'est l'histoire des extinctions rapides. Donc, c'est celle de la fin du Crétacé ou celle de la fin de l'ère primaire, elle est rapide à l'ère géologique, c'est-à-dire 500 000 ans. Donc, c'est pas du tout rapide, si tu veux, à échelle humaine. Donc, de là, peut-être une confusion. Les dinosaures ont mis temps à disparaître. Et puis, pour la question, je m'étonne que tu ne te saisisses pas de l'anthropocène, en fait. Et puis, parce que voilà, dans ton néonaturalisme, il manque quelque chose. Et là où je verrais aussi quelque chose d'intéressant, c'est que ça abonde totalement dans ton sens de la culpabilisation de l'action humaine, en tout cas pour certains de ses tenants, comme Kreutzen ou je sais pas, Greenwald. Mais il y a tout un courant plutôt optimiste, oui. Hein, chez les tenants de l'Anthropocène, par exemple, Earl Ellis, des gens qui disent en gros, c'est bah ouais, on a modifié l'environnement, mais du coup on a le pouvoir, quoi. Ça veut dire que si on l'a modifié, ça veut dire qu'on a les moyens aussi de tout changer et de rendre les choses bien meilleures à l'avenir. Et donc à côté de la dystopie qui nous est proposée par certains, on a une utopie plutôt positive qu'on retrouve d'ailleurs dans le film que j'ai vu hier et qui est Demain.
J'allais le citer, je sais.
Voilà, où on sort de là avec la pêche, parce que, bah ouais, à côté de cette image de catastrophe qu'on nous avance, là, on nous propose des visions plus positives. Ouais.
Voilà. Oui. Avélan Maguier, je suis docteur en sociologie et je travaille sur la responsabilisation aux petits gestes, aux éco-gestes. Et du coup, ma question va peut-être rejoindre celle de monsieur. Je ne suis pas sûr de comprendre. Pourquoi est-ce que vous situez cette culpabilisation et cette responsabilisation aux éco-gestes du côté seulement néonaturaliste? Parce qu'il me semble qu'en fait, il y a aussi tout un versant de croissance verte dans la culpabilisation des individus, notamment afin de... parce que ça invisibilise le rôle des entreprises, de l'État, et donc... d'un mode de développement économique qui est lui-même insoumis. Donc, enfin, ouais, je suis pas sûr de comprendre. Enfin, si vraiment vous faites une distinction aussi forte entre néo-naturalisme et les croissances naturelles.
Moi, c'était plus une question sur les injonctions. C'est aussi sur une thèse. En fait, j'en avais deux. Sur la question, simplement sur la question de la France et de la Suisse, la France aussi propose de payer plus cher son électricité pour soutenir les énergies dites vertes. Donc, c'est une nouveauté des contrats EDF. Parce que
d'accord.
Je viens de déménager.
La France, c'est bêtise.
Oui, possiblement. Ouais. Sur la question, justement, de l'arrogance des élites, je dirais que. C'est quelque chose qui est déjà très présent finalement quand on regarde la naissance du management de la gestion, puisque les premiers écrits sont des valorisations des qualités des dirigeants pour gérer une entreprise. On ne leur donne pas d'outils vraiment de management au sens comment vous allez demander les choses. On leur demande de cultiver leur qualité personnelle. Donc je vois une certaine continuité dans la façon de voir le dirigeant comme une personne parmi les meilleurs d'entre nous, une tradition qui reste plus que. Et sur la dernière question que j'avais, c'est est-ce que vous pensez, puisqu'on ne peut pas vraiment utiliser la notion d'acceptabilité, mais je n'ai pas lu votre article, qu'il serait possible de partir d'une promesse technoscientifique assez claire, d'essayer de remonter sur les éléments qui l'ont influencé pour documenter un peu mieux cette question d'acceptabilité sociale et de participation? C'est un projet de recherche que j'ai, mais je ne sais pas si ce n'est pas un peu trop naïf. Merci.
Dernière question, peut-être une avant-dernière de Rémi Barbier, parce que tu avais l'air.
Oui, moi je voulais juste, d'abord oui, merci pour votre exposé, et c'est une question de précision, parce que je voulais savoir si vous embarquez effectivement Bruno Latour dans la bannière du néo-naturalisme ou pas. Et je trouve que c'est un peu contradictoire en fait avec deux points que je vous avais mentionnés. D'abord, je ne pense pas que lui considère que les hommes sont mauvais de ce fait détruire la nature. Au contraire, je veux dire, il a une espèce même de technophilie qui lui est reprochée par ailleurs. Donc je pense que c'est assez contradictoire avec ce point-là. Et deuxièmement, je pense qu'il ne fait pas du tout l'utilisation du couple Amiesny et la notion de Carl Schmitt telle que celle que vous avez présentée. Lui, c'est quand même l'idée que dans Politique de la nature, en fait, hein, c'est ami et ennemi, c'est à la fin justement d'un très long processus d'exploration de la composition du collectif, une injonction à officialiser le fait que effectivement le collectif, à un moment donné, il ferme ses portes et il fonctionne avec les entités, les actants ou les acteurs qui sont humains et non humains, qui en font partie prenante. Mais c'est toujours après aussi dans la perspective d'une reprise de ce processus de composition. Et donc ceux qui ont été à un moment donné ennemis parce qu'ils n'ont pas réussi à entrer dans le collectif peuvent toujours faire, donc il y a toujours la procédure d'appel et peuvent toujours refrapper à la porte. Donc c'est pas du tout une espèce de brutalité pour à un moment donné désigner les amis, les ennemis. C'est à un moment donné, c'est une espèce d'injonction à la transparence. On dit, voilà, si on se base sur, je sais pas, telle étude d'effets, coûts, bénéfices, etc. Et on se, il y a peut-être les victimes éventuelles de tels résidus de pollution, etc., qu'on peut calculer statistiquement. Ben, c'est les ennemis, en fait. C'est ceux qu'on accepte de sacrifier à un moment donné et qui ne font pas partie du collectif. Hein. Mais ils pourront revenir. Donc, c'est pas du tout le, enfin, je trouve que ce n'est pas du tout ni, enfin, le, l'usage qui peut en être fait dans le néonaturalisme, ou en tout cas, peut-être que vous l'avez présenté.
Dernière question.
Michel Dubois, donc de, moi je suis de l'Institut Polytechnique La Sablonnée, l'école d'ingénieurs, pour faire préciser, parce que les écoles d'ingénieurs, enfin un institut privé, hein, c'est très rare en France, mais au moins on se sent un peu en communauté avec les Suisses, pour certains aspects.
Oui, l'école polytechnique fédérale de Lausanne, elle est publique. Hein.
Oui, oui, mais enfin oui, non, mais disons, on est dans deux pays différents, le public des de Suisses et le privé de la France, c'est très proche. C'est-à-dire que nous, on a quand même 40% de subvention de l'État. Et les, mais enfin, en termes d'approche, je trouve qu'ils sont très proches. On les a trouvés très proches. Donc, on a trois formations d'ingénieurs en géologie, en agriculture et en alimentation santé. Moi, j'ai été pendant 6 ans. Je suis resté dans l'Institut, mais j'ai des fonctions beaucoup plus recherche, développement, etc. J'étais le directeur de la spécialité agriculture. Et j'ai publié un livre qui s'appelait « La transition énergétique » en 2009. On va ressortir sous le titre, alors c'est pour ça que j'ai trouvé un peu un discours intéressant, j'ai l'impression d'être vraiment sur la même longueur d'onde, moi j'ai appelé ça, le livre sort jusqu'à maintenant. Vivre dans un monde sans croissance, la transition énergétique, point d'interrogation. Un peu plus, donc, plein de doutes. Alors moi j'ai beaucoup apprécié votre discours, parce que j'ai trouvé qu'en fait il y avait plein de doutes, ça, j'ai trouvé ça très bien, parce que en fait je pense bien malin et qui... a vraiment tous ces titres compris et pense qu'elle est à la bonne direction. Donc, en effet, des débats incessants, sachant que les experts eux-mêmes, l'expert qui sait tout, j'y crois pas. Hein. Là, le débat que j'ai entendu sur les extinctions rapides, bon, il y a plein de scientifiques qui disent que les extinctions, justement, de la crise crétacée tertiaire, c'est fait en un temps extrêmement court, c'est-à-dire moins de 100 ans. Donc, vous voyez, il y a les débats sur ce sujet, il n'y a personne qui sait vraiment. Hein. Alors, moi, j'avais trois sujets, trois questions, j'aurais bien aimé avoir votre point de vue. La première, c'est le point de vue de la domestication. Parce que le néolithique, je n'ai pas encore écrit de livre relatif à ça, mais c'est en train de venir. Le néolithique, c'est fondamentalement la domestication de la nature. C'est-à-dire où la technique et le vivant, il y a quelque chose qui se construit d'une alliance entre la technique et le vivant, qui est quand même très très original. Et moi, mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, on rentre dans une époque d'un élargissement de la domestication de la nature. Ça fait baisser la biodiversité globale, ça c'est sûr, que ça fasse baisser la biodiversité locale, ça c'est beaucoup moins certain. Au contraire, parce que ça c'est un débat qui est intéressant à regarder. Qu'est-ce que c'est que la domestication, en fait? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le deuxième, si vous avez parlé d'opposition rurale-urbain, l'opposition rurale-urbain, c'est une conséquence aussi du néolithique, poussée jusqu'au bout, donc maintenant... La société qui arrive à la fin de ce néolithique, je suis complètement d'accord avec vous sur votre analyse sur la rupture, mais là ce serait intéressant, j'aurais bien aimé avoir votre point de vue sur cette relation urbain-rural. Qu'est-ce qui se passe là actuellement? Est-ce que c'est le rural, la campagne qui est quand même en train de déborder sur la ville, ou si c'est pas plutôt, enfin, moi c'est ma thèse, enfin, j'aurais bien aimé l'urbain qui est en train de prendre le pouvoir total. Vraiment, c'est autrement dit exactement l'inverse de tout le discours dominant qu'on ressent. Et ma troisième question, c'est sur la démographie. Je suis d'accord sur votre analyse que la démographie, disons, globalement, on voit bien le ralentissement, mais je pense qu'un discours pro-démographie, pro-natalisme, pro-croissance, alors moi je ne suis pas du tout pour venir, il faut absolument... La vision classique de tous les gens qui ont une formation de type biologique, c'est on est trop nombreux, on est trop nombreux. La question, est-ce que c'est pas plutôt d'avoir un discours souple en disant oui, certes, il va falloir arrêter de croître et peut-être décroître. Mais sans. Pourquoi ce serait totalitaire d'avoir un discours disant on va peut-être être un peu trop nombreux, surtout si on veut être tous très riches.
Bien, donc tu as 3 minutes. Bon,
ouais, c'est ça. Ouais.
Ah, voilà.
Alors, sur le dernier point, j'ai pas d'opinion, donc. Je voulais juste dire que c'était faux ce que disait Copor. Ah oui. Il présente l'état de la natalité comme étant en croissance exponentielle, ah, oui. Où il y a un gros problème. Et ils associent surtout ça, c'est ça qui est intéressant, c'est à la notion de densité. Hein. C'est beaucoup plus clair. Je vous ai mis la version allemande parce que justement, elle n'est pas si claire la version française. C'est l'idée que densité, c'est le mal. Donc c'est un point de vue aussi sur l'urbain. Qui est extrêmement discutable, puisque, en fait, donc je réponds à votre question précédente, hein, je pense que la ville qui s'assume, c'est-à-dire une ville avec beaucoup d'urbanité, densité et diversité, c'est la meilleure réponse du point de vue du développement durable. C'est la meilleure configuration actuelle, enfin, si on analyse, maintenir le maximum de biodiversité, limiter l'artificialisation des sols. Donc, on pourrait faire tenir la population de la planète sur la moitié de la France, un peu plus de la moitié de la France. Et donc, on aurait, les terres agricoles et puis le reste en en réserve naturelle. Donc, ce serait. On sait bien que la biodiversité, le problème, c'est l'agriculture. Donc, c'est pour ça aussi que la question de l'historicisation. Est très importante, hein, parce que c'est pas simplement diminuer l'emprise, c'est le néolithique lui-même le problème, hein, et j'ai pas de solution. Hein, une agriculture qui ne limiterait pas la biodiversité, ça ne correspond plus à la définition même de l'agriculture. Donc c'est comme ça qu'on a produit, c'est justement en limitant le nombre d'espèces pour choisir celles qui nous intéressaient. Donc voilà. Sur la domestication, et je trouve que le mot est assez juste, et j'en profite pour répondre l'anthropocène. Moi, j'aime bien ce mot. C'est-à-dire que je ne l'ai pas utilisé parce que souvent, il est utilisé par un courant contre un autre, mais en fait, je pense que c'est le point, c'est la conscience écologique, l'anthropocène. Puisque, en fait, qu'est-ce que c'est dans le principe, hein, je ne dis pas la littérature qui utilise ce mot, mais l'idée que, en fait, l'ordre de grandeur de la puissance de l'action humaine devient comparable aux ordres de grandeur des forces biologiques et physiques. Donc pourquoi pas, alors c'est un terme qui ressortit plutôt à la géologie, alors qu'il n'y a pas que la géologie, il y a aussi l'évolution des espèces vivantes. Hein. Anthropocène, c'est plutôt un nouvel étage dans l'histoire géologique. Alors que peut-être il faudrait un terme.
Il n'a pas été accepté en tant que terme.
Il n'a d'ailleurs pas été accepté, mais je veux dire, la construction du mot, c'est plutôt ça. Hein. Donc, mais je suis d'accord hein, peut-être il faudrait inventer. Enfin, disons, moi, en tant que chercheur en sciences sociales, je n'ai pas de point de vue. Et justement, comme la nature n'est pas unifiée, sauf par les humains, c'est-à-dire, la nature est unifiée, mais le monde biophysique, il n'a pas d'unité, il n'a pas de logique, il n'a pas de but. Il n'a pas de choses qui l'unifient. Donc justement, entre la géologie et la biologie, il n'est pas du tout certain que les géologues et les biologistes s'entendent pour caractériser... dire ils ne vivent pas dans la même histoire, en fait.
Justement, je trouve que ça éclairerait ta manière d'aborder le néo-naturalisme que de te saisir des débats sur l'anthropocène.
D'accord, tu as raison. Ouais. Et moi, je le mettrais en tout cas... avant la bifurcation des deux versants de la conscience écologique. Je pense que c'est quelque chose de commun, hein, ce qu'il y a derrière, disons, hein, on peut discuter. D'accord. Alors, je vais essayer de répondre extrêmement rapidement. Donc, est-ce que le développement durable pourrait être aussi une idéologie totalitaire? Ça, c'est toute la question, au fond, liée à la mondialisation, liée au fait qu'il y a des problèmes mondiaux, et justement... L'environnement naturel a ceci de particulier que, contrairement à d'autres thèmes mondiaux, il est dès le départ mondial. Puisque la conscience écologique, c'est aussi Tchernobyl, c'est l'idée que les radiations ne respectent pas les frontières. Donc il faut qu'il y ait une composante mondiale qui est même la première. Et ensuite, on va essayer de localiser, ce qui n'a pas été le cas de beaucoup de questions politiques. Donc on peut difficilement échapper à la mondialité de la conscience écologique. Mais est-ce que la mondialité du politique est en soi porteuse de totalitarisme? Il y a des gens qui disent ça. Hein. Une des caractéristiques quand même assez malignes, hein. Moi je suis un observateur de l'objet développement durable, hein. Je ne suis pas un militant du développement durable, mais je trouve qu'ils ont été assez malins en fabriquant une matrice squelettique presque vide. C'est-à-dire que nous on fait l'hypothèse, ce que dit Our Common Future, c'est nous on fait l'hypothèse que penser ensemble ces trois éléments, c'est à la fois nécessaire et possible. Et maintenant, à vous de prendre la main et de fabriquer des contenus qui, si possible, valident cette hypothèse, mais peut-être pas. Hein, donc, je pense qu'on est dans cette situation-là. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a eu une fusion au niveau de l'ONU d'objectifs de développement et d'objectifs du développement durable. Donc après le millénaire, les objectifs du millénaire, là il y a une liste en plusieurs centaines, hein, c'est intéressant, qui a été produite et qui crée une convergence entre développement et développement durable, ce qui est complètement logique, hein, ce qui est complètement cohérent du point de vue des gens du développement durable, pour qui le développement durable c'est juste intégrer l'ensemble des composantes du développement. Hein, donc, voilà, donc est-ce que c'est totalitaire de penser le global? Je joue sur le mot global. À mon avis, non. Hein. On peut avoir, on est toujours le global de quelque chose, hein, d'ailleurs, mais à condition d'avoir une approche fédérale, c'est-à-dire que tous les niveaux comptent, tous les niveaux sont égaux. Moi, ça ne me semble pas gênant. Quand on vit en Suisse, justement, on trouve que le fédéral n'est peut-être pas assez important et que les petits niveaux sont plutôt plus... despotique que les grands. Mais bon. Alors, urgence comme activation, oui, ça c'est sûr, mais justement, toute la question c'est que je pense que les sociétés politiques aiment de moins en moins se faire manipuler. Et j'ai beaucoup discuté avec des gens, il se trouve qu'à l'EPFL, autour de moi, il y en a pas mal, hein, donc, de gens qui disent, je leur dis, mais pourquoi vous caricaturez la réalité? Pourquoi vous taisez vos doutes? Pourquoi vous taisez les controverses internes à la science et vous produisez un discours univoque? Et ils me disent, oui, tu as raison, presque tous. Oui, tu as raison, mais sinon, ça ne marcherait pas. Et moi, je pense qu'ils se trompent, que ce n'est pas comme ça que ça va marcher. Justement, c'est plutôt... Alors, demain, bon, c'est un flou artistique sur le plan des idéologies, hein, mais je pense que c'est beaucoup plus par... un mouvement de co-construction. On est dans un monde politique de la co-construction, c'est-à-dire que si les citoyens ne s'approprient pas, enfin, vivant aussi dans l'univers de l'urbanisme, je sais bien, vous sans doute pour une part aussi, un projet qui n'est pas co-construit par une démocratie participative, il a toutes les chances de ne pas marcher. Il va y avoir plein d'obstacles parce que les citoyens, ils ont des moyens aujourd'hui, divers, d'empêcher ce qu'ils n'aiment pas. Et donc, je pense que c'est une erreur d'orientation d'être comme ça paternaliste, de jouer les instituteurs de la Troisième République face à des gens qui seraient donc manipulables. C'est-à-dire, on leur dirait un truc, on sait que c'est pas ça directement qui va marcher, mais au moins, on les aura mobilisés. Hein, c'est ça. Moi, je pense que c'est une erreur. C'est sûr que beaucoup de gens veulent faire ça. Hein, sont conscients du fait qu'ils poussent aux extrêmes. Ils ont monté aux extrêmes aussi morales en augmentant le niveau d'inquiétude pour mobiliser. Hein, on comprend, ça, on peut avoir une certaine sympathie, mais à mon avis, il se trouve. Donc c'est aussi, je réponds aussi à l'idée de par quoi on peut remplacer l'acceptabilité finalement. Justement, l'acceptabilité suppose une hiérarchie entre l'émetteur d'énoncé et puis ceux qui doivent en tenir compte dans la pratique. Donc moi, je pense qu'il faut horizontaliser, je ne le dis pas spécialement à propos de la nature, je pense que le monde politique doit être horizontalisé. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de scène politique. Hein. Justement, en Suisse, on voit les dégâts des faiblesses de la démocratie représentative. On voit comment la démocratie peut être totalitaire. Là, récemment, on est passé à deux doigts de quelque chose d'extrêmement grave, c'est-à-dire la fin de l'état de droit, en fait la fin de Montesquieu en Suisse, puisqu'il y a eu une votation qui voulait supprimer l'autonomie du judiciaire par rapport à l'application de la loi. Bon, il y a quand même eu 40% des gens qui ont voté pour ça. Hein. Donc, c'est pas une croyance naïve dans une démocratie directe, mais c'est l'idée que en termes de légitimité, et notamment sur des questions éthiques qui ne sont pas des questions cognitives, donc il n'y a pas d'expertise éthique directe, il y a des conseils, mais les citoyens sont structurellement aussi armés pour faire des choix éthiques que n'importe quel expert, et notamment les experts politiques. Donc je pense que c'est cette idée de co-construction qui permet de proposer une alternative, coproduction si vous voulez, l'acceptabilité. Sur l'extinction, bon là je ne sais pas, hein, je ne suis pas qualifié, simplement il me semble que là où ce que je voulais dire c'était que c'était l'événement, là on ne parlait pas de l'étendue parce qu'on ne la connaît pas l'étendue de l'extinction produite par les hommes, ce que disent les gens qui disent que c'est pire maintenant, c'est quand même le processus qui est beaucoup plus court. Or, le processus, la cause, la cause, là, elle est plus longue dans le cas des hommes que dans le cas des dinosaures. Maintenant, est-ce que peut-être cette cause, elle est moins puissante? C'est ça, peut-être, qui fait que le résultat va être plus lent. Hein. Là-dessus, je ne sais pas. Mais disons qu'en tout cas, on est dans la comparaison à la fois des causes et des effets. Hein. Mais sur les effets, je pense que tu dois avoir raison. Je ne connaissais pas... Bon, d'après, bon. Mais sur les causes, par contre, ce n'est pas le cas. Il me reste une minute. Donc, effectivement, on a... Moi, ce que j'ai essayé de décrire, c'est des cadres... j'ai essayé de faire une stylisation des points de vue en les prenant, je dirais, à leurs racines les plus conceptuelles. Dans la vie politique concrète, on a une multitude d'hybridations. Hein, et donc, si vous prenez le terme de mobilité douce, c'est typiquement une alliance tactique, je ne sais pas, ou stratégique, entre les néonaturalistes qui veulent qu'on aille moins vite et les partisans du développement durable qui veulent un droit à la mobilité, mais à la mobilité publique. Donc mobilité douce, c'est bien, on met les vélos, les piétons, les TGV, ils ne sont pas vraiment dans le compromis. Hein. Là, on sort du compromis. Mais il y a plein de choses comme ça. Donc effectivement, vous avez tous raison, enfin tous ceux qui ont dit, attention, il y a des systèmes, par exemple, l'injonction à l'acceptabilité peut aussi proposer des énoncés de type développement durable. Hein, donc à mon avis, là, c'est une erreur encore plus manifeste, parce que je dirais, le néonaturalisme, il est d'essence antidémocratique, tandis que le développement durable, il est tout à fait compatible avec la démocratie. Donc c'est un peu bizarre, justement, qu'en France, on a un pôle idéologique développement durable qui est puissant, quand il est récupéré par un univers, des schèmes d'action technocratique, effectivement, on a ce genre d'hybride. Hein. Donc ce que je voulais essayer, c'était de donner quelques outils pour ensuite analyser des objets qui sont beaucoup plus compliqués. Hein. Je pense que là-dessus, on est d'accord. Donc les élites qualité personnelle, il me semble que le fait qu'il y ait une individuation des compétences ne me semble pas un prolongement de la technocratie. Enfin, c'est peut-être compatible, je ne sais pas, mais pour moi, c'est deux logiques différentes. Mais je n'ai peut-être pas bien compris votre question. Hein. Il me semble que, justement, il y a une certaine horizontalisation tendancielle, c'est-à-dire que, finalement, on dit à tous les gens... d'abord, il y a moins d'hierarchie, hein, de niveau hiérarchique dans les entreprises qu'avant. Et par ailleurs, on dit à tout le monde qu'il faut... se construire, être créatif, etc., quel que soit le niveau. Alors ça, c'est un autre sujet. En tout cas, c'est pas tout à fait ça que je veux dire, parce que moi, ce que je vis, c'est plutôt la vision extrêmement archaïque, c'est le baron noir, hein, c'est cette vision de l'impunité qui est caractéristique des classes politiques en général, mais en particulier en France, hein, où on passe un concours et c'est réglé, on va être pour toute sa vie au sommet du pouvoir, hein, sans risque réel de descendre. Hein. Donc ça me paraît pas du tout moderne, pas du tout contemporain, mais plutôt vieillot. Et puis alors la promesse technico-scientifique dont vous parliez, oui, pourquoi pas, effectivement, c'est intéressant de suivre un fil. Moi, j'ai l'impression quand même que l'acceptabilité, elle ne peut pas se comprendre uniquement comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, je vois bien dans mon univers d'ingénieurs, en gros, ils sont effectivement très dans l'acceptabilité parce qu'ils disent, en gros, l'humain est mauvais, mais eux, ils ne pensent pas que la science est un produit humain. En fait, ils pensent que la science, c'est le dévoilement par quelques humains un peu bizarres comme eux, qui sont habités par la logique et par l'éthique de la nature, de quelque chose qui existait. Parce que pour eux, la science n'est pas une invention, c'est une révélation. Donc, eux, ils sont à la fois du côté la vérité, donc qui fait d'eux des experts, donc des potentiels technocrates, et de la morale. Puisque justement, face à l'humain qui fait n'importe quoi, qui est irrationnel, contre son propre intérêt, eux sont là avec cette association. Hein. Donc, il me semble que c'est pas la seule logique cognitive ou technologique qui va nous permettre de comprendre ça, mais aussi une sociologie, je dirais, du savant et de l'ingénieur. Et puis, dernier point sur la tour. Donc,
deux secondes.
Donc, je pense que les deux... Je suis d'accord avec vous sur politique de la nature. Je pense que Faça Gaïa dit autre chose et que là, il y a vraiment l'idée qu'il faut être du côté pour ou contre la Terre. C'est quand même un des messages assez clairs de ce livre. Voilà. Donc il me semble que la tour est un grand acrobate des idées, hein. Il peut défendre des idées contradictoires quasiment au même moment, et encore plus d'une séquence à l'autre. Mais là, il a fait quand même un pas, il me semble, c'est une posture militante, hein. Il ne le conteste pas dans son livre, donc c'est un Latour un peu différent du Latour qui observe les controverses.